Liste TV, bonjour, bonsoir à tout le monde. Fabrice, et aujourd'hui, je vais recevoir Odonata Edition pour 1 heure en prestation pour le financement qui arrive, le financement les chroniques de Valérian. Donc, on va faire un petit tour de table et on va permettre à chacun de se présenter. Donc, je vous en prie, Théo, peut-être tu peux commencer.
Eh bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Théo Chailloux, l'auteur des chroniques de Vaelran, et je suis très heureux d'être ici. C'est pas très grave.
De toute façon, le chat a l'habitude que je massacre tous les noms. Donc voilà.
J'ai
Ils
l'idée de faire
sont.
un nom pareil aussi, hein.
On va essayer de massacrer ton prénom, Fabrice. Florent, donc Moragas, moi je suis donc auteur sur Insectopia, Omega, et donc je gère au Donata Édition. On depuis quelques années maintenant.
Ok, très bien. Donc, comment va se passer ce live? Tout d'abord, on aura une première partie. On va un peu voir de quoi il retourne au terme du jeu, son univers, ces petites choses. On vous donnera la possibilité de poser vos questions à n'importe quel moment du chat. On essaiera d'y répondre. Ou éventuellement, si c'est une question qui reviendra et qui sera mieux posée plus tard, étant donné qu'on verra en deuxième partie, on ira sur la page du financement directement et on verra toutes les petites choses à voir et que vous puissiez aussi voir tout cela en notre compagnie. Si vous, jamais vous avez des questions, je suis sûr que vous avez toujours des questions à poser. Donc, chers amis, commençons. Peut-être tout d'abord, est-ce qu'on pourrait avoir un petit pitch du jeu concernant ces chroniques?
Alors, les Chroniques de Vaelran, c'est un univers de fantasy qui prend place dans le monde de Vaelran, hein. Tout est dans le titre. Un univers de fantasy inspiré du fin 18e siècle. C'est pour ça qu'on a appelé ça de la moderne hard fantasy. Et c'est un univers dans lequel les joueurs vont incarner des chroniqueurs, membres de l'ordre des chroniqueurs, qui sont aux yeux du monde des journalistes. Mais tout ça n'est qu'une façade, puisque en réalité, ils se servent de ce statut de journaliste pour manipuler, influencer, contrôler les événements qui vont se dérouler, les événements qui vont se produire aussi, le tout pour faire évoluer la société, non pas pour être des grands maîtres qui contrôlent le monde, mais vers un but qui est ce qu'ils appellent l'utopie.
Donc c'est une sorte de société secrète, si j'ai bien compris.
C'est un peu ça, c'est une société secrète qui a une façade de journaliste officiel.
Et justement, c'est un terme, tu l'as dit un peu plus tôt, ce moderne art fantasy que vous avez utilisé. J'ai cru voir sur les réseaux que beaucoup de gens se demandaient c'était quoi exactement. Est-ce que tu peux éventuellement nous donner dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est que ce thème que vous avez choisi en fait de représenter et d'utiliser?
Alors c'est un terme un peu barbare, effectivement, qui surprend. À l'époque où je cherchais un peu à comment placer les chroniques de Valran dans les genres de l'imaginaire, sachant que j'aime beaucoup théoriser un peu tout ça, étudier tout ça, j'ai fini par trouver le terme, donc moderne fantasy, tout simplement parce qu'on n'est pas dans de la médiévale fantasy, on est sur l'époque moderne, ce qui correspond entre le 15e et 18e, hein, en étant historien. Et la hard fantasy, alors ça parle un petit peu pour ceux qui sont habitués à la science-fiction, puisqu'il existe la hard science-fiction. Et ben la hard fantasy, c'est son genre cousin, mais dans un univers de fantasy. Donc tout se veut au maximum rationnel, scientifique, basé sur une logique plus solide que juste le fameux ta gueule, c'est magique. En l'occurrence, pour donner un exemple un peu rapide, dans les chroniques de Valran, la magie, c'est une science, c'est une partie d'une science un peu plus large. Ça répond à des logiques scientifiques, à un fonctionnement qui se veut scientifique, à minima, mais on reste dans de la fantaisie, c'est-à-dire qu'il y a des elfes, des nains, et il y a toujours des personnes qui peuvent envoyer des boules de feu au coin de la rue.
Ok, on a une petite question de Suck My Dice. Je le lis en général à voix haute, étant donné qu'on diffuse ça après en podcast, c'est comme ça que les gens puissent connaître la question. Y a-t-il donc une influence des Lumières du XVIIIe siècle avec ce désir d'utopie des chroniqueurs?
Alors oui, il y a une influence non négligeable, je pense, dans l'idée que j'ai, quand j'ai développé la chose, j'ai une formation d'historien d'origine, ce qui a forcément influencé. Je suis très féru de l'époque moderne, notamment. Donc forcément, les Lumières ont un peu impacté, ont un peu rayonné sur la construction, l'idée de l'utopie, même si je suis aussi allé un petit peu plus loin dans la chronologie, hein, pour ce qui est de l'utopie, des concepts sociaux, politiques, etc. Mais oui, on peut retrouver effectivement cette influence des Lumières.
Ok. Quand... Peut-être plus globalement, en termes de création, comment t'es venu cette idée, ce monde, cet univers, peux-tu nous donner un peu le sel derrière le jeu cela.
Alors, le sel un petit peu derrière tout ça, c'est une histoire
qui remonte... Tu parlais que t'étais historien, tout ça, enfin, t'avais ce côté-là.
Alors, c'est une histoire qui remonte à loin pour moi, dans une époque où j'étais adolescent, même si je reste jeune, puisque les prémices de Valran ont commencé il y a plus de 10 ans pour moi. J'avais commencé un petit peu c'était un petit jeu avec des amis qu'on avait commencé à imaginer un univers de fantasy. Avec le temps, j'ai voulu aller plus loin dans le détail, toujours plus loin, toujours plus loin. J'ai voulu porter ensuite ça vers le jeu de rôle, vers l'édition, parce que j'avais envie d'en faire quelque chose. J'avais envie de partager plus largement les histoires que j'avais imaginées, l'univers que j'avais imaginé. Et avec le temps, les réflexions... Et notamment parce que, notamment en réfléchissant un peu avec Florent, j'ai trouvé l'idée, justement, le postulat qui était en fait là depuis toujours. Parce que depuis toujours, j'avais ce propos sous-jacent de manipuler, de journaliste, etc. C'était dans le titre depuis le début et ça m'est venu d'un seul coup. Je me suis dit, et c'est notamment pendant ma licence d'histoire, je me suis dit, mais c'est vrai, les chroniques. Historiquement, c'est une ressource scientifique qu'on utilise, nous, en histoire. Mais c'est comme ça qu'on appelait ce qu'on pourrait appeler les journaux de l'époque, entre grosses guillemets. Et du coup, l'idée m'est venue comme ça. Et après, j'ai vraiment enfoncé le clou plus loin. J'ai travaillé davantage là-dessus. Et en voilà le résultat aujourd'hui.
Et Florent, quand toi, tu as eu tes premières... vu sur le jeu, qu'est-ce que tu as ressenti? Quel est ton avis? Est-ce que tu étais emballé tout de suite?
Alors, véritablement, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'aspect effectivement chronique, puisque on est dans un jeu, moi j'y ai joué, je vais faire jouer ce week-end d'ailleurs à la chimie du jeu à Toulouse, hein, au Rhin de Valran. J'ai fait mes pré-tirés, tout ça, qui sont issus du livret de découverte.
On verra d'ailleurs juste après, on fera un petit tour.
Ouais. Alors moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'idée qu'on est dans l'influence des peuples, des villes, des pays. On a des scénarios avec de l'intrigue, du complot. Et en même temps, on est à l'intérieur de l'action et en même temps, on réfléchit à ce qu'on va, à comment on va le transcrire dans l'histoire. Finalement, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs et là, donc, on est vainqueur de l'histoire, on est en influence. Et à la fin, on rédige sa chronique, on rédige son article tous ensemble, on dit bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens, hein, pour finaliser, donner quelque part le dernier coup d'estoc de l'opération qu'on a menée. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans le jeu. Ce côté complot KPDP avec ce supplément d'âme, tiré avec l'histoire. Et puis un système qui le porte aussi, hein, qui porte ce côté panache. Et puis cette idée de parier avec l'histoire, de mettre des paris, de récupérer ses paris, de pouvoir jouer avec des points de chronique centraux, c'est toute une idée finalement, et quelque chose qui est porté et profond aussi, parce que essaie de résumer toute l'envie qu'il y a eu dans ce projet, c'est donc l'idée principale de l'histoire avec un H et qu'on remanie, le système qui va le porter, et le fait que Théo l'ait creusé à travers des différents peuples et différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans l'univers, avec un monde détaillé qui met ça en place, et des personnages qui vont représenter ces contrastes, ces problématiques. Voilà. Voilà, c'est un jeu avec différents scénarios qui sont donc, je dirais, à le temps dans l'intrigue d'un complot, mais aussi on a du scénario où on va être dans un médecin où bah, on va avoir des monstres, des vampires, des choses comme ça qui vont, voilà, qui vont arriver. Ça va alterner parce que finalement, sous couvert d'un chapeau d'intrigue permanente, on peut, voilà, on peut s'essouffler ou on peut chercher tout le temps l'intrigue, mais parfois ben, c'est juste une confrontation directe qui peut arriver, quoi.
Et d'ailleurs, tu parlais un peu plus tôt de ce côté vraiment chroniqueur. J'ai cru voir qu'il y avait un système où à la fin de la partie, on était censé rédiger soit un peu sa chronique, où il y avait peut-être un gain d'XP pour tout cela. Donc, j'avais trouvé ça fort sympathique, mais on verra en feuilletant tout cela. Mais revenons peut-être au message du chat. Donc, est-ce qu'il y a des adversaires un peu maléfiques de manipulation de l'information? As-tu lu l'historien David Colomb?
Alors, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais que je n'ai pas lu. Voilà, on va être simple là-dessus. Des adversaires un peu maléfiques de manipulation de l'information. Bah, tout dépend comment on va...
Il y en a beaucoup, j'ai envie de dire.
J'ai envie de dire, il y en a beaucoup, en fait, c'est ça. C'est que on est, l'Ordre des chroniqueurs, une organisation de journalistes qui est une presse libre, ce qu'on pourrait associer à une presse libre, pour son époque. Mais c'est pas le seul journal du monde, déjà, pour commencer. Il y a les journaux royaux, déjà, pour commencer. Il y a beaucoup d'autres organismes de presse qui peuvent exister, qui ont emboîté le pas aux chroniqueurs, puisque dans l'histoire de Valran, les chroniqueurs sont les premiers à avoir construit ce métier. Donc, il y a d'autres médias qui vont pas forcément toujours être dans la même volonté de véracité. Et puis il y a des pouvoirs qui existent plus ou moins officiels qui sont pas forcément favorables à cette liberté que les chroniqueurs peuvent avoir, surtout que les chroniqueurs ça reste un ordre qui a une certaine influence à l'échelle du monde qui ben, on les voit pas forcément toujours très bien, ces journalistes qui mettent un peu leur nez partout et pas forcément dans les endroits qu'il faut. Donc il y a quelques entités étatiques ou externes qui effectivement peuvent s'opposer à eux. Et puis il y a aussi toute une notion qui sera développée beaucoup plus dans le livre de base, d'autres choses dans ce monde de Valran qui sont des ennemis. Alors c'est vite fait évoqué dans le livre Découverte, notamment dans l'histoire du monde. Mais il y a d'autres menaces, et il y a une menace là au début de quand le jeu va commencer, qui est une menace un peu intrigante même pour les chroniqueurs.
Ok. On a un petit message pour nous dire que le livret de Découverte Première Passion, c'est très beau. Et d'ailleurs, ça va nous permettre justement d'enchaîner pour qu'on vous montre un peu, étant donné qu'on sait que nos amis l'héroïste, ils aiment bien voir les beaux visuels, tout cela. Donc, la petite patte graphique qui se cache derrière un jeu et qui met souvent en valeur. Donc, je vais rajouter tout cela. Donc ici, c'est la couverture du livre. Et donc, on peut retrouver ce style. Ça va être le même style d'illustration tout du long du livre, que ce soit pour le livre de base.
Alors, ça, c'est la couverture du livre de base qui a été faite il y a un petit moment par Nicolas Camiade, qui est un illustrateur reconnu hein, dans le milieu. Et on a, en allant sur la découverte du livret Découverte, on va voir qu'il y a d'autres illustrateurs. Ça, c'est une première pierre, mais il y a d'autres illustrateurs qui sont donc il y a notamment Antoine Leblanc et Mylène qui ont dessiné, ainsi que David Chapoulet, voilà, et Pierre Gault pour l'illustration de l'écran. Qu'on pourrait montrer aussi, voilà, mais qui se trouve d'ailleurs dans une partie se trouve dans le livret, c'est les pages suivantes si je ne m'abuse.
Oui, je pense que c'est celui-là. D'ailleurs, qui en font juste.
Voilà. Donc c'est une partie de l'écran, voilà, qui évoque un peu la rêverie, l'utopie de ces chroniqueurs qui vont vouloir qui vont vouloir un monde meilleur, voilà, un rêve peut-être partagé. Voilà, donc dans les ça c'est dans les c'est une partie de l'écran qu'on a remis sur le livret découverte. Et si tu tournes la page, enfin, on voit qu'il y a je voulais m'arrêter sur la charte graphique, hein. Donc on a une charte graphique qui se veut dans un livre 18e, fin 18e, oui. Début 19e, où on a véritablement ce qui était fait en termes artistiques à cette époque-là pour faire des beaux livres. Donc c'est repris, hein. Donc on voit les marges qui sont à gauche, à droite de chaque page, qui reprennent ça, et puis les triangles d'entrée de chapitre en haut à gauche qui forment comme une sorte de marbrerie qui était constituée d'éléments chimiques à l'époque pour rendre ce côté décoratif. Et donc on a une police aussi, police campanile, qui retrace donc pourquoi vous engager chez les chroniqueurs, qui retrace finalement ce qui donne cette marque de fabrique, ce moment, quoi, ce moment de l'histoire, voilà, qui marque ce moment de l'histoire, bien que l'on soit, on le répète, dans un univers moderne fantasy, hein, c'est fantasy, mais on a voulu marquer finalement le graphisme comme ça, avec une couleur bleue et rouge, qui sont les couleurs des chroniqueurs, hein, bon, ça se, voilà, c'est aussi voulu que ça soit réalisé comme ça. Voilà pour la mise en page qui a été réalisée par Jocelyn Grange, avec qui on travaille fréquemment, avec qui on a travaillé sur Sapainka notamment, mais aussi Omega, voilà, et un peu sur Insectopia également. Voilà pour la mise en page.
Une petite question justement avec ces triangles. Je me suis dit souvent dans certains livres, ils font des couleurs différentes pour démarquer les chapitres. Est-ce que c'est une idée que vous avez déjà pensé ou peut-être.
Il te dira oui.
Il y aura des couleurs différentes. Voilà. En plus, c'est bien, ça permet de se repérer. C'est assez
agréable. Oui, très facilement. Oui. Surtout si on a un livre un peu épais, c'est facile d'avoir les petits à côté pour t'indiquer où tu en es. Je vais peut-être juste revenir ici parce qu'on a une petite nouvelle d'intro qui est sympathique un peu quand on ne connaît pas, d'avoir un peu l'ambiance. Je pensais qu'en en la lisant, donc c'est ces deux pages. On rappelle, le livret de découverte est téléchargeable. On vous a mis un lien juste en bas dans la description et je vais vous remettre le lien dans le chat, les amis. Comme ça, vous pouvez avoir accès, si vous le désirez, vous-même, pour le feuilleter en même temps. Donc, j'avais bien aimé, et surtout qu'on a l'histoire, et puis on a le côté, on raconte ce qui s'est passé un peu en mots de lettres à la fin.
La version officielle et la version officieuse, c'est l'idée, en fait, hein, puisque la partie des joueurs, ça va être la version officieuse, celle que les chroniqueurs vont connaître, mais le compte-rendu qu'ils font à la fin de la partie, c'est cette version officielle, celle qui va être publiée dans leur presse et que les gens vont connaître.
Et d'ailleurs, c'est aussi un des points que j'ai pu remarquer en lisant la petite histoire, c'est que ça donne aussi pas mal le ton de l'ambiance, étant donné que nos héros chroniqueurs, à un moment, ils disent dans l'histoire, on fait en sorte d'éliminer les gens qui nous reconnaissent, étant donné qu'ils étaient en infiltration pendant un certain moment. Et c'est là que tu te fais, ah oui, c'est pas Toulouse, c'est pas des bisounours.
Ah, ce ne sont pas des bisounours, puisque l'ordre des chroniqueurs a, on va dire, a une doctrine, une règle d'or dans son action, c'est que la fin justifie les moyens pour atteindre leur utopie. Ils sont prêts à tout faire, même les actions les moins glorieuses et peut-être contraires à ce que pourrait être la finalité de leur utopie. Ce qui se voit d'ailleurs dans les fiches de personnages et
ce qui crée des ressorts finalement dans les scénarios ou dans la conduite finalement des joueurs, parce que oui, on peut la fin justifie les moyens, mais finalement jusqu'à quelle limite, et puis faisant finalement des actions je dirais
pas très
non conforme à la morale, bien, est-ce que vraiment on va vers cette utopie ? Est-ce qu'on est conforme à cette utopie, quoi ? C'est une question qu'on peut se poser aussi en tant que chroniqueur.
Et j'avais cru voir aussi qu'il y avait différents courants de pensée en termes de chroniqueur, tout ça. On verra peut-être un peu plus quand on verra vraiment la partie chroniqueur. Mais ici, on va explorer ce que contient le livret. Donc, on a toute la partie qui résume un peu les grandes trames et les grandes choses de l'histoire, ce que tu nous as un peu expliqué, les chroniqueurs, les utopies. utopie, mais on a aussi le monde, on nous explique qu'il y a des elfes, il y a des nains, tout cela. On a aussi l'explication par rapport aux différents pays, et au fait qu'ils sont à un moment, ils ont créé une union pour combattre une force maléfique, voilà. Tout ça, je vous laisserai découvrir par vous-même, à moins qu'on ait des questions dans le chat qui désirent en connaître plus, n'hésitez pas là-dessus. Donc, on a vraiment aussi une petite histoire du monde, ça c'est toujours sympathique à voir. Hein.
En version abrégée.
En version abrégée. Il y a la version chroniqueur.
Alors, non, mais dans le livre de base, il y aura une chronologie qui se voudra beaucoup plus complète de toute l'histoire du monde. Et il y aura notamment quand est-ce que les chroniqueurs sont intervenus, même si je ne dirais pas forcément de quelle manière. On pourra le deviner au niveau de ce qui s'est passé. Mais du coup, on verra que les chroniqueurs ont agi plusieurs fois et ont provoqué des changements, pour le meilleur comme pour le pire. Mais toujours dans le but de servir l'utopie.
C'est ça. C'est les intentions qui comptent, comme on dit.
La fin justifie les moyens. Parce que la fin sera morale.
Donc, on a plein d'informations concernant les différentes espèces, les nations, les différentes guildes qu'il peut y avoir, et même un petit historique sur la guilde des chroniqueurs. Et c'est ça que je disais en préambule, un peu avant, c'est qu'on avait différents courants de pensée, mais aussi différents chroniqueurs. Donc, chaque chroniqueur n'est pas forcément le même, c'est pas une copie carbone, ils ont tous des rôles différents. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'est des sortes de classes ? J'ai envie de dire, ou c'est un peu plus versatile.
C'est plus versatile que ça. J'ai vraiment voulu me détacher de cette idée de faire un système de classe. Donc, on n'a pas de classe. On va vraiment pouvoir construire son personnage de A à Z avec les manières qu'on a envie. Mais effectivement, il y a quand même des différences. Alors, ils ont un secteur, ce qui correspond, on va dire, à leur spécialité de journaliste. C'est un rôle extrêmement narratif, mais en même temps, ça peut avoir une certaine influence sur ce que le personnage est censé savoir ou non, déjà. Et il y a aussi les courants de pensée qui, là, ont une influence un peu plus marquée, notamment pour les joueurs qui vont faire des campagnes, puisque chaque courant de pensée va influencer le personnage avec... des personnes complètement fanatiques de l'ordre, des personnes prêtes à tout pour accomplir leur objectif, les fameux zélotes. À leur inverse, j'aime bien enchaîner en disant qu'il existe aussi les sceptiques, ceux qui considèrent que l'ordre veut faire de bonnes choses, d'accord, mais est-ce qu'il y a une différence entre les intentions et ce qui va être vraiment fait ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une baleine cachée sous le gravier ? Et au milieu de tout ça, on a les loyaux, des personnes qui sont adhérentes à cette philosophie, à la doctrine de l'ordre, mais qui ne sont pas pour autant complètement aveuglées.
Qui représentent aussi la bonne moitié de l'ordre, au moins. Voilà.
Ça représente la bonne majorité, effectivement. Les zélotes sont en minorité, mais ils pensent être dans le droit chemin.
Et est-ce que ça risque pas d'être un peu explosif si on a un groupe avec différents niveaux de pensée, enfin différents courants de pensée, ou c'est justement ça l'intérêt d'avoir ces différents courants de pensée, c'est d'avoir cette friction entre...
C'est tout l'intérêt en fait d'avoir toute cette friction qui peut se créer, puisque par principe les zélotes par exemple vont vraiment être prêts à accomplir les pires atrocités en principe. Là où les sceptiques vont être un peu plus modérés, vont peut-être avoir tendance à plus tempérer la chose. Et en plus de ça, il y a aussi, comme j'avais dit, il y a les secteurs de chroniqueurs, dont les guetteurs, qui sont des gardiens pour s'assurer que les chroniqueurs ne partent pas en vrille. Mm-hmm. Donc, ils ont un petit peu cette... Effectivement, il peut y avoir une interaction un peu conflictuelle, un peu... On va chercher à pas forcément trop se... On va surveiller les uns les autres, en fait, pour s'assurer que personne ne... trahissent notre secret.
À la discrétion du maître du jeu, du maître des chroniques, ça peut être exacerbé ou étouffé. Hein, voilà.
Tout à fait.
C'est à lui de gérer son groupe en mettant en place ça ou non.
Sur le jeu, on a un terme, c'est maître des chroniques, c'est ça ?
Maître des chroniques.
Maître des chroniques, oui.
Et on va répondre à quelques petites questions au niveau du chat. Les courants de pensée, est-ce que c'est les courants historiographiques ?
Historiographique. Le terme un peu là, on sent la personne qui connaît les termes scientifiques. Oui et non, on va dire. Il y a peut-être une vague inspiration. Quand je les ai construits, j'ai vraiment cherché à balayer qu'est-ce qui pouvait se trouver dans les courants de pensée, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver, notamment un peu vis-à-vis de l'histoire avec l'OTAN. Voilà, on va dire oui et non à l'appréciation un peu de chacun.
Une petite aspiration, quoi.
Voilà, c'est ça.
Autre question, les chroniqueurs agissent-ils principalement au niveau de l'histoire par le haut ou peut-on agir au niveau du quotidien plus simplement ?
Eh bien, ils agissent à toutes les échelles qui peuvent avoir de l'importance dans le monde. Ils vont autant agir sur les aspects politiques que sur des aspects scientifiques, puisque la science est pour eux le vecteur qui permettra d'atteindre l'utopie.
Et quand tu parles de science, c'est cette fameuse science magique à chimie ou
toutes
c'est
les sciences, toutes les sciences confondues, hein, que ce soit la physique, la chimie ou l'arcanologie en question, même si pour eux, l'arcanologie est probablement la plus importante, vu que c'est une science qui a largement écrasé les autres dans le monde de Vaelran. Et du coup, ils vont agir un peu à toutes les échelles, même ils vont influencer les guerres, ils vont influencer les décisions politiques, voire même des fois en suggérer. Ils vont définir si une avancée technologique est bonne ou mauvaise, et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Ils vont, si la vie d'un village complètement paumé dans les montagnes du royaume de Kalou, par exemple, a un rôle, eh ben, on va agir. Ils peuvent agir autant sur les petites gens, sur l'histoire populaire, que sur la grande histoire. Ça va être vraiment dépendant de leur jugement, de leurs implications, et toutes les histoires méritent d'être racontées. C'est un peu leur l'esprit.
J'avais cru voir justement qui était marqué que ça peut jouer en milieu urbain ou justement totalement à l'abri des regards de chacun dans les lieux mystérieux ou dans la campagne, ce genre de choses. Et aussi qui prenait éventuellement des décisions, c'était quoi, sur court durée mais aussi très longue durée, c'est-à-dire ils pouvaient faire un événement qui pensait avoir une répercussion sur une centaine d'années. Donc là aussi, je pense que parfois, le petit événement que tu vas pousser quelqu'un dans la bonne direction pour plus tard avoir un résultat, c'est peut-être ça aussi éventuellement qu'on pourrait qualifier dans le quotidien un peu plus simple, même s'il y a toute une trame derrière.
Bah, les chroniqueurs envisagent l'utopie comme un projet à très long terme. Du coup, ils agissent pour des choses qui ne se produiront pas forcément tout de suite ou dans la décennie, voire dans le siècle qui va suivre. Surtout qu'en plus, c'est relatif en fonction des durées de vie des différentes espèces.
Oui, c'est aussi.
Voilà.
c'est quoi la durée de vie des différentes espèces, justement, maintenant que tu en parles ?
Les humains vont...
À la louche, hein.
Disons qu'on va avoir des humains et les reptiliens qui vont avoir la durée de vie la plus courte, c'est-à-dire à peu près 80 ans, jusqu'aux elfes qui peuvent vivre 500 ans.
500 ans, voilà. C'est tout ?
500 ans. Ouais, je suis
jamais.
Voilà. Et au milieu de tout ça, on a les nains et draconiens qui vivent entre 2 et 3 siècles.
Okay.
Mais on est quand même sur une majorité de la population globale qui vit en siècles.
Très bien. Continuons un peu l'exploration. Donc, on voit qu'il y a des ordres de magie, l'ordre des Templiers, un ordre des Chevaliers Gris, tout ça.
Oui.
C'est des choses en plus dans le monde. On peut voir qu'il n'y a pas qu'une seule organisation pour chapeauter le monde et ses dérives. Et justement, cette fameuse magie, est-ce que c'en est vraiment une là ? Parce que j'avais cru voir que c'était découpé en plusieurs morceaux. Tu peux un peu nous faire un petit résumé ?
Alors, on a une grande science générale qu'on va appeler l'arcanologie, qui va regrouper trois domaines principaux. La magie, qui est la manipulation du monde réel, la manipulation des lois naturelles du monde. L'alchimie, qui est l'exploitation de l'énergie éthérée pour créer des réactifs. Et l'enchantement, qui est une autre forme d'application sur les objets pour leur donner des facultés, faire des effets un peu plus particuliers. Mais oui, c'est bien de la magie, puisque, pour la faire très simple, les personnes qui vont pratiquer la magie, les arcanistes, vont connecter leur esprit avec les esprits qui existent dans le monde, qui va leur permettre derrière d'exploiter l'éther, l'énergie éthérée, pour manipuler les 10 esprits et plier ou contrôler certains aspects du monde pour bien produire des boules de feu, créer des rochers, soigner des blessures ou relever des cadavres.
Oui, ça faut faire attention.
Voilà, voir se transformer en animaux, c'est possible aussi.
Et oui, c'est vrai qu'apparemment, il faut se spécialiser aussi en magie, de ce que j'ai vu, il y a différentes arcanes.
Oui, tout à fait. En fait, les arcanistes ne peuvent créer une connexion qu'avec une seule forme de magie précise. Donc, on va avoir des arcanistes très spécialisés, un arcaniste de feu, un arcaniste de vie, un arcaniste de mort. Tout va dépendre. C'est une spécialisation bien particulière qui permettra quand même de belles exploitations, puisque toutes les magies vont avoir leur petite subtilité, leur petit pouvoir propre.
Et la tienne, c'est quoi ta préférée? Voilà, ça en dit beaucoup, long en général sur les gens.
Moi, j'aime beaucoup l'arcane de l'air. On peut faire beaucoup de choses très amusantes avec. Il faut réfléchir un petit peu pour l'exploiter, mais moi, je l'aime beaucoup.
Et Florent?
L'arcane de feu. Moi,
Il va tout brûler. Il est flamboyant, c'est ça, tout à fait.
Je suis flamboyant. Désolé.
Très bien. Maintenant, on va arriver un peu côté système de jeu sur cet aspect-là. On vous explique un peu comment construire votre chroniqueur, quel va être le système de jeu. On peut voir qu'on a des aspects, c'est bien cela ?
Des aspects.
Ils sont découpés en trois parties, donc 3x3. Ça nous rappelle peut-être certains systèmes avec des vampires, des loups-garous, ce genre de choses. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude. Je pense qu'on peut tirer un petit parallèle là-dessus.
Je n'ai jamais joué à ces jeux-là.
Ah.
Mais je connais quand même.
Voilà. Donc, pour ceux qui sont habitués, en général, on va retrouver le côté physique, le côté relation, on va dire ça, pour résumer. Hein,
oui, tout à fait.
Le côté plus intellectuel, ce genre de choses.
Ceci dit, il y a même une explication en termes de lore, parce qu'on est dans de la hard fantasy, donc il y a une explication même pour ça.
Ah. Voilà. Donc vous aurez l'explication.
Exactement.
Et vous pouvez peut-être l'un de vous nous expliquer le système, comment ça se découpe. On a pu voir qu'on avait les aspects, puis qui se découlent en caractéristiques.
Et après, il y a des compétences.
Est-ce que ça serait peut-être pas mal de montrer un pré-tiré pour voir.
Je pense. Effectivement.
Voilà, si tu peux avancer sur un pré-tiré. Et Théo, je te laisse. On a les différents personnages. Hein. On va tomber sur une page. Bon, avance.
C'est un peu plus loin.
C'est un peu plus loin. Là, c'est juste une image. Voilà. Et là, il y a les pré-tirés qui sont proposés. Donc, dessinés par. Donc, si tu peux zoomer sur un pré-tiré, au hasard. L'elfe ou le draconien maudit.
J'aime bien l'elfe.
Moi, j'aime bien les elfes aussi, voilà. c'est la ségrégation. Oui, monsieur. Oui. Voilà, on est dans les thèmes, je pense, du jeu aussi, peut-être.
le livre de scénario qui est proposé en financement se passera chez les elfes. Ah. Alors, le système de jeu, effectivement, on a ce découpage en corps, âme, esprit, qui sont reliés à des caractéristiques, trois chacune. Les aspects, c'est l'inné, on va dire, c'est un élément inné du personnage, c'est dépendant de l'espèce qu'on va jouer. Alors ça commence avec des valeurs très faibles, comme on a sur les pré-tirés, c'est-à-dire qu'on a un point dans un aspect. Et c'est pas quelque chose qui est normalement modifiable, parce que c'est propre à notre biologie, notre organisme, à ce qu'on est. Ensuite, on a les caractéristiques qui sont un petit peu, on va dire, le détail de qui on est sur les aspects physiques, sociaux et intellectuelle, pour faire oui. dans les grandes lignes. Donc ça, c'est ce qu'on va un peu plus être en se développant, qu'est-ce qu'on va devenir. Et ensuite, on a enfin les compétences qui sont ce en quoi on s'est spécialisé, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a développé comme savoir-faire. Et le système de jeu va se jouer avec des dés 12.
Oui.
Avec des dés 12, donc le système est assez simple. Le maître des chroniques va annoncer la compétence qui fonctionne le mieux avec l'action qui va être réalisée. Le joueur, en réponse, va choisir la caractéristique qui lui semble la plus appropriée, la plus logique dans sa manière de réaliser l'action. Donc, techniquement, il peut utiliser n'importe quelle caractéristique avec n'importe quel jet. Par exemple, s'il a envie de mettre un coup d'épée dans la tête de quelqu'un, ce sera la compétence de mêlée. Mais s'il a envie de le faire en frappant fort, il utilisera la caractéristique de puissance. S'il a envie de le faire en cherchant une faille chez l'adversaire, il pourrait utiliser la logique. Et s'il a envie de la jouer en mode Cyrano de Bergerac, flamboyant, il pourrait très bien utiliser le charme, par exemple. Le tout est de créer une cohérence narrative dans sa manière d'accomplir l'action. Alors, ça ne peut pas fonctionner partout. Par exemple, je vois très mal l'utilisation du charme avec sécurité quand il s'agit de crocheter une serrure. Voilà.
Pourquoi pas ?
On peut essayer d'imaginer la séduction d'une serrure.
Faut justifier ou peut-être éventuellement charmer le garde qui a la serrure.
Voilà, peut-être. Ça, c'est peut-être une. Voilà, ça, par exemple, ça peut être une approche qui peut être intéressante.
Comment tu composes ton pool de dés, si c'est un pool de dés ou c'est juste un seul dé,
c'est un pool de dés, en fait. On va lancer autant de dés 12 qu'on a dans la caractéristique qu'on a choisie. Et tous les dés 12 qui vont nous donner un résultat inférieur ou égal à notre score de compétence seront des réussites. Les autres, on les ignore. Et l'aspect va rentrer en jeu, c'est que si on a utilisé une caractéristique lié à un aspect dans lequel on a un point ou plusieurs, on a le droit à relancer des dés qui ont échoué. Donc si par exemple j'ai lancé 4 dés et que j'ai 4 dés sur les 4, j'en ai que 2 qui réussissent, mais que j'ai un point d'aspect dans la caractéristique choisie, j'ai le droit de prendre un dé et de le relancer. Et je peux faire ça à tous les jets.
Très bien. Est-ce qu'il y a des petites subtilités en plus des points de destin,
Alors, il y a des
points de pari. Le pari.
Pari
sur Théo. Théo voilà. Chaillot, qui est là-haut. Je parie sur lui. Hop,
pari. J'ai parié sur la réussite avec Odonata Edition. Effectivement, il y a la mécanique de pari. Parce que ça m'a semblé... Alors moi, je suis un joueur qui aime bien lancer les dés. J'aime bien cette excitation du hasard. Et j'avais envie de retrouver ça dans cette idée de « on manipule les sociétés ». Techniquement, on va un peu parier sur ce qui va se passer, on va prendre des risques plus ou moins mesurés, donc on va parier sur l'histoire. Et pour ça, les joueurs ont un pool commun, un pot commun de points, qui s'appelle des points de chronique. Et ces points de chronique, à tout moment, lorsqu'ils font un jet, ils peuvent dire « je prends un point de chronique, je le mets en jeu, je parie que ce test, je le réussis. » Et là, ils font leur jet. Et s'ils réussissent, ils récupèrent des points de chronique supplémentaires en fonction du seuil de leur compétence, parce que plus la compétence est basse, plus elle est susceptible de donner un grand nombre de points, parce qu'il y a plus de risques. Pas de pain, pas de gain, comme on dit. Et du coup, on peut récupérer ça. Par contre, s'ils échouent leur pari, le point de chronique se transforme en point de drame qui revient au maître des chroniques. Et l'intérêt de ces fameux points, il est double. En premier, pendant la partie de jeu, c'est des points qui peuvent être dépensés comme une ressource pour déclencher des éclats flamboyants qui sont une petite liste de bonus qu'ils peuvent prendre pendant la partie. Donc ça peut être des bonus de « j'ai le droit de relancer un dé, j'ai un dé supplémentaire, j'ai une compétence ». Des fois, c'est aussi des choses un peu plus narratives. Et le maître des chroniques a la même chose avec les points de drame. Donc il peut mettre les joueurs... Là, lui, les points ne s'appellent pas des éclats flamboyants comme pour les joueurs, mais s'appellent des éclats misérables. Et dernière subtilité des points de chronique, c'est que c'est aussi le pot d'XP des joueurs.
Ah oui, donc ça veut dire que si je suis là, moi j'aime bien jouer, je ne me retiens plus, je lance des points, je perds tout l'XP du groupe.
Ça peut être. Alors, c'est un pot commun, donc du coup, il faut se mettre d'accord avec ses coéquipiers. Mais dans le principe, oui, tout à fait. Il est totalement possible que les joueurs enchaînent pas de chance sur pas de chance et du coup se retrouvent avec plus aucun point à la fin, ce qui peut être dommage. Alors, heureusement, ils en récupèrent grâce à leur chronique de fin de partie. Mais ils peuvent même commencer une nouvelle chronique parce que ce pot, il se maintient de partie en partie. C'est pas un pot qui recommence à zéro entre chaque session, c'est un pot qui se préserve. Du coup, on peut très bien se retrouver à la suite, à notre deuxième scénario de campagne, avec plus aucun point à parier. Parce qu'on a tout dépensé pour monter nos persos. Du coup, on ne peut plus parier.
Deux petites questions. Donc je pense que tu viens d'y répondre, mais est-ce que tu peux être en déficit de points ou pas? Si je suis tombé.
Je t'offre crédit de points de chronique.
Je ne suis pas allé jusque-là quand même. Je me suis dit que c'était peut-être un peu vicieux et que c'était peut-être ça allait peut-être un peu freiner l'expérience de jeu. C'est pas amusant. Mais s'il y a des maîtres des chroniques qui ont envie de se dire, allez, je vous autorise de faire des déficits, par contre, je prends.
Ah oui, je prends un intérêt, hein, bah oui.
Alors là, c'est les joueurs qui sont face à eux-mêmes. Hein. S'ils ont envie d'être trop joueurs, c'est leur problème.
Et tu le disais avant, tous les joueurs doivent donner leur accord, donc c'est vraiment pas je veux utiliser, mais tout le monde doit se mettre d'accord sur la table, tout le monde
Ouais,
doit
il y a
valider
une
l'utilisation.
idée de collectif. Et d'ailleurs, ce pool de points communs, il est à se partager dans l'XP. Parce que si par exemple on a, admettons, 20 points de chronique à la fin de la partie, que monter telle compétence va coûter 8, et il y a un joueur qui va pouvoir monter sa compétence en payant 8, il va en rester que 12. Et il va falloir se les partager et se dire, ah bah tiens, toi, ce serait intéressant que tu développes ça en premier. Ils vont devoir un petit peu choisir. C'est pas chacun fait son évolution dans son coin. Et c'est aussi une manière de refléter l'un des principes de l'utopie des chroniqueurs.
Je vois. Et ça va, il n'y a jamais eu une partie où tout le monde avait investi sur un joueur en principe, en disant, oui, on va tout donner maintenant pour le voir mourir à la session d'après. Est-ce que c'est déjà arrivé?
Alors,
si je suis maître du jeu, je le tue.
honnêtement, je le ferai bien aussi. Surtout que la mort peut vite arriver. Mais non, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que souvent, ils arrivaient à se répartir correctement, ou en tout cas, ils avaient une certaine logique, à faire.
Et c'est vrai que tu dis la mort peut vite arriver, et c'est souvent une question qu'on nous pose quand il y a des nouveaux jeux qu'on ne connaît pas trop, avec des univers peut-être un peu plus sombres, un peu plus réalistes. Quelle est la facilité à mourir? Est-ce que voilà, est-ce que tu vas devoir recréer un perso à toutes les parties, ou tu peux espérer le garder toute une campagne, ou ça dépend vraiment de tes choix?
Alors, on peut le garder toute une campagne. J'ai quand même pas voulu faire une mort punitive. Par contre, on peut très vite se retrouver blessé, puisque par exemple, si tu prends le personnage d'Amaryl, que tu regardes sa santé et que je te dis que les attaques physiques peuvent faire jusqu'à 25 de dégâts. Eh bien, Amaryl, elle survit pas.
Ah oui, 10
Voilà.
de santé, oui,
En fait,
c'est
on est
compliqué.
sur un système de combat qui se veut très explosif, très rapide, donc on peut faire très rapidement une très grande quantité de dégâts, mais que ce soit les joueurs comme les ennemis, en fait. Tout le monde peut faire une grande quantité de dégâts assez rapidement, donc les combats vont pas forcément s'éterniser, ou ils vont pas s'éterniser face à un gros sac à PV qu'on va affronter. Mais par contre, se retrouver à zéro ne veut pas dire qu'on meurt. En fait, il y aura des conséquences qui se produiront. Et mourir, faut quand même un petit peu le chercher. Même s'il y aura toujours des moyens de survivre par des moyens que les chroniqueurs auront à proposer.
C'est un jeu quand même héroïque.
Oui, c'est quand même un jeu qui se veut
Carrément.
assez flamboyant. Hein. Il y a cet esprit un peu capé d'épée que j'ai voulu retrouver. Mais on est sur un combat qui se veut quand même assez explosif, et on va pas va pas passer 4 heures en se disant ah, attends, tel ennemi, il a telle faiblesse, ce machin, il a 350 PV, je peux pas lui envoyer une boule de feu, je suis obligé d'aller l'attaquer au corps à corps, coucou la tarasque.
Oui, oui, parce que j'ai vu qu'il y avait une notation de tarasque hein, quelque part, donc j'ai pris peur en voyant ça, je fais oula,
non.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors il y a des dragons, il y a des dragons, il y a des draconiens, mais il n'y a pas de mesure à ce niveau-là.
Ok, très bien. On va peut-être feuilleter peut-être rapidement le reste du du livret, pardon, avant éventuellement d'aller faire un petit tour au niveau du financement. Donc, je ne sais pas si la partie d'après, ça va être le scénario, très certainement.
Tout à fait.
Donc, on va peut-être éviter de dévoiler, mais si je dois revenir en arrière, peut-être. Voilà. On vous laissera découvrir ça par vous-même. Donc, on rappelle, en lien dans la description, vous avez la possibilité de télécharger le petit livret pour voir ça par vous-même. Donc, je vais prendre un petit moment pour rajouter l'écran pour le financement. Et au cas où, si dans le chat, vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, donc je vais remettre le lien, normalement vous l'avez épinglé pour YouTube, mais bon, ceux qui sont sur les autres réseaux, le voici, afin que vous pouvez éventuellement suivre en même temps que nous. Je vais agrandir, non, ce n'est pas le bon, bien sûr, c'est toujours quand on est en live qu'on se trompe dans les boutons. Donc, nous avons la présentation. Je vais quand même faire un petit rafraîchissement. Voilà. Donc, tout le départ, hein, je pense, c'est ce qu'on a expliqué carrément au début du live, tout ce côté explication du jeu et du système. Donc, la gamme comprendra un livre de base.
Un livre de base. Un livre d'univers. Un coffret collector, il y aura donc un coffret collector qui va regrouper finalement le livre de base et le livre univers. Voilà, il y aura un recueil de scénarios qui est proposé. Et puis donc il y a un écran à trois volets qui est donc en présentation ici. Et puis ouais. Donc on aura la carte du monde, des posters et puis donc des feuilles de personnages. Et des sachets de chroniques aussi qui vont être réalisés, voilà, pour le jeu.
Sachets de chroniques, c'est les en jetons à ce moment-là. Ok. Ouais. Et jetons à parier. Est-ce qu'ils ont une forme de jetons de poker ou pas? Vous avez poussé le vice jusque là ou pas?
Ils ressemblent. Hein. Si tu descends, tu les as. Mais bon, on le verra après.
Oui, ça va. La carte, on précise, format A2.
Format A2, ouais, voilà, ouais.
Papier, pour l'instant, papier glacé, papier.
Papier glacé, ouais, A2, papier glacé, ouais, voilà.
On précise peut-être le format des livres, étant donné que quand c'est pas précisé,
c'est un format US Letter, c'est-à-dire 22-28. Voilà, c'est okay. dans les classiques, ce qu'on fait nous au Donata Edition, on est sur ces formats-là.
Donc, voilà. Si on a d'autres livres de chez Odonata, on voit exactement
voilà, on voit format, exactement la forme que ça va avoir.
Okay. Je remontre juste avant pour parler des différents pledges, des différentes contributions qu'on peut prendre. Donc, à 45 euros, nous avons le livre de base et son PDF. PDF mm-hmm. gratuit, je suppose.
Oui, oui, oui.
Cette offre pour livre de base et PDF, c'est pour la campagne uniquement ou par la suite éventuellement, si je décide d'acheter le livre, j'ai aussi le PDF?
Là, pour l'instant, c'est pour la campagne uniquement. On verra par la suite. Voilà.
Ok. Ouais. Donc, le compagnon à 109 euros. Ah, c'est bien parce qu'il n'y a pas de 99, moi qui suis belge, je dois traduire 90, tout ça. Donc, je remercie. Ouais.
C'est bien.
99 euros. Alors, ceci dit, je tiens à dire que le comptage dans le monde de Valran se fait 98 ans de tout ça.
Ah.
J'ai fait ce parti pris. On ne dit pas 79, on dit 79.
Bah, bravo, bravo, je vous félicite.
Cette décision.
Donc, pour le pledge compagnon à 109 euros, on a le livre de base, l'écran, le livre univers et leur PDF inclus avec. Donc, on a aussi pour le chroniqueur, à ce moment-là, 179 euros. On a le all-in. Et c'est ce qu'on avait pu voir ici, c'est le all-in, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, voilà, ouais. Avec le sachet en plus, voilà, ouais.
Avec le sachet en plus qui ouais. n'est pas là.
Mais que voilà, qui sera aussi dans le pledge.
Je vais poser cette question parce que Mathieu, toujours, il la pose. Et si je ne la pose pas, je vais recevoir des petits coups la prochaine fois qu'il me voit. Tout d'abord, l'écran, est-ce qu'on a le nom du jeu ou vous le gardez
Il n'y a pas le nom du jeu sur l'écran. Non.
C'est tout pour l'illustration.
C'est tout pour l'illustration. Ouais,
pour l'ambiance. Ok, très bien. Et est-ce qu'on a des dés personnalisés aussi pour Mathieu ?
Alors, on n'a pas fait de dés personnalisés pour ce projet. Voilà, ouais.
Le logo rendait mal en tout petit.
C'est vrai qu'il est assez fin.
Il y a beaucoup de détails. Ça a été un très beau travail qui a été réalisé. Et pour le coup, j'en remercie l'illustratrice qui s'en est chargée.
Et justement, ça nous permet d'avancer. Donc là, vous avez le lien aussi pour le livret de découverte. Et on rappelle, livret découverte, scénario, pré-tiré, il y a tout ce qu'il faut pour jouer avec l'explication du monde.
C'est tout prêt à jouer.
Donc on a un résumé ici de ce qu'on avait dit un peu plus tôt. On a une explication du système. Donc on retrouve bien les titres.
Les flamboyants et misérables.
Voilà. On a les crédits pour toute l'équipe. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Donc, gestion par Maple Logistique Philibert.
Ouais.
Je viens, attendez qu'on ait une petite chouette présentation. Félicitations pour ce projet à l'auteur et à l'éditeur. Voilà. Vous avez déjà.
Merci.
De Marion, de Suck My Dice. Donc, porteur de projet, Donata, voilà, pour ceux qui connaissent, sinon on a une petite explication. On a les différents paliers, comme tout financement qui se respecte. Donc, le financement à 10 000 euros, puis à 13 000, on commence à avoir les feuilles de personnages offertes, 20 feuilles. C'est les feuilles de personnages à remplir soi-même, je suppose.
Oui, les feuilles de personnages à remplir soi-même, oui, tout à fait.
20 prétirés, ça aurait fait beaucoup.
Ouais.
Ah! Pourquoi pas ? Étant donné que je voyais qu'il y avait une petite illustration, tout ça, je me demandais, sait-on ? Jamais. Pour le palier débloqué à 16 000, on a le livret aide de jeu avec l'écran. Donc, ça, c'est compagnon et chroniqueur. Pour l'instant, mystère sur ce que c'est, ou vous pouvez teaser un tout petit peu ?
Il y aura tout ce qui sera utile pour les joueurs. En cours de partie, des résumés de comment faire les attaques, des choses comme ça. Tout ce qui sera nécessaire, tout ce qui sera utile et qui rendra les parties encore plus explosives.
Ok. Pour 18 000, on a deux scénarios ajoutés au livre de scénarios. Donc là, ils sont directement ajoutés dans le bouquin. Qu'on soit clair, c'est pas à part dans un petit livret, c'est dans le livre. Alors, petit message, étant suisse, je ne peux que ça va pas ce soir. Féliciter Théo pour le 70, 80, 90. Pas sûr que je puisse participer. Participation coûteuse à notre. Mais c'est un de réussite. Merci pour ton message. Et donc, on a pour l'instant le dernier palier révélé pour 20 000, où ce sera un livret aide de jeu amélioré. Et là aussi, je suppose que c'est des choses en plus.
Tout à fait. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se réserver si on va encore au-delà.
Oui, parce que la question, j'en parlais un peu avant qu'on commence le live, c'est la fameuse question qu'on a en général toujours. C'est, oui, mais la suite dans tout ça, est-ce que tu as préparé la suite ? Est-ce que tu as déjà des idées de campagne, de suppléments, etc.
Alors,
si les gens sont motivés.
Ce ne sont pas les idées qui me manquent et le nombre de choses que j'aimerais traiter. Après tout, c'est un projet que je tiens depuis, comme j'avais pu dire, à peu près 10 ans. Les livres qui vous seront proposés, c'est vraiment ce qui concerne l'univers, l'essentiel, on va dire, au moment où les joueurs vont commencer à jouer. Mais si c'est un succès, que ça fonctionne, effectivement, j'irai plus loin, j'irai travailler d'autres aspects de l'univers qui sont évoqués comme il faut, mais qui sont à peine évoqués, enfin qui sont juste évoqués dans le livre de base. J'irai plus loin, j'irai proposer bien plus de choses et des campagnes. Ça, il y en aura aussi pour faire vivre ce monde, faire évoluer, faire avancer aussi chronologiquement, puisqu'il y aura une histoire de fond qui voudra se tisser progressivement. Et je pense qu'après 10 ans de travail, j'aurai besoin d'une pause après.
Effectivement. Et c'est vrai que
je prendrai le temps de faire les choses bien.
Okay. C'est vrai que vu qu'on disait un peu plus tôt qu'il y avait certaines décisions qui allaient avoir une répercussion bien plus tard, on pourrait voir éventuellement une progression de l'univers à un moment ou un autre, je suppose.
Donc, qui sait quel univers les futurs maîtres des chroniques vont créer ?
Aussi. Donc ici, on a le visuel qui rappelle les différents paliers. Donc, le livre de base, le play du compagnon, et le tout en un. Et effectivement, ici, on a les jetons. Est-ce qu'on les voit plus en...
Un peu plus... Oui, si tu fais ça, voilà.
Effectivement, on les voit. Ils sont jolis. Et je suppose qu'il y a un côté bénéfique et l'autre côté, tu le retournes, c'est le côté...
dramatique.
Dramatique, exactement. On peut voir qu'on a des petits ajouts aussi. On a un poster.
Deux posters, ouais.
Deux posters.
Ils sont dans le pledge central, dans le
all-in. Okay. Voilà, ils sont dans le all-in. Ah oui, poster. La carte,
la carte du monde, qui est en cours de réalisation, qu'on va finaliser là, d'ici 15 jours et qu'on va présenter pendant la campagne.
Oui, effectivement. Attention, petit caractère, photo non contractuel. l'écran à part, si vous le désirez, hein, si vous êtes plusieurs éventuellement à vouloir. Scénario, livre de scénario à part. Livre d'univers.
Voilà, toutes les options, on peut reprendre finalement les différents, le livre univers, le livre scénario, le livre... de base et le coffret également.
Voilà. Okay. Donc si je prends mon pledge tout en un, mais que je veux quand même offrir le coffret à mon ami dans l'espoir que lui masterise pendant que moi je le lis juste où il...
Tu peux le faire. Ah, tu sais, moi, en tant qu'éditeur, il y a des gens qui prennent la souscription et qui prennent le livre de base supplémentaire pour... garder le livre de base
en bon état, oui.
En bon état et jouer avec l'autre. Ah, certaines personnes font ça.
Bah, j'avoue que c'est
ça
quand même
arrivé plusieurs fois.
C'est ceux qui veulent pas, qui veulent jamais ouvrir leurs figurines, qui veulent jamais les sortir des boîtes.
Ah oui, ça pour les collectionneurs, effectivement, ça peut être le cas où tu veux garder vraiment ton truc en état de premium prestige et quand même pouvoir jouer. Donc, au bout d'un moment, faut pouvoir le déballer. Bah, voilà, donc on a parlé de tout cela pendant une petite heure. Monsieur Odonata, peut-être veux-tu en profiter pour nous donner éventuellement les dernières actualités ? Sur les sorties à venir, les financements à venir, ou les financements qui vont être livrés, etc. etc. Un petit point actualité.
Sapanka a été livré. Il manque quelques petits éléments donc qu'on va renvoyer. Les bouquins ont été livrés. On va avoir des financements. Il y a des projets qui sont en cours de réalisation. Hein, donc, les gardiens de l'éther notamment, Résilience, puis d'autres projets qui sont en cours de réalisation chez Odonata Edition. On va être en convention, on sera à la chimie du jeu donc ce week-end, pour parler des chroniques de Valhalla notamment, et puis des gardiens de l'éther. Pour vous dire que pendant la campagne, il y aura aussi un actual play prévu. et puis d'autres événements qui vont arriver donc au cours de cette campagne de financement. Et donc je vous invite à suivre ça sur les réseaux, sur la page de souscription aussi de Valran.
Ok, très bien. On a un dernier message du chat de Fred. Le système de Paris, ça me fout les jetons. je te souhaite une belle réussite pour ton projet, Théo. Ce sera amplement mérité au vu de ton travail entre parenthèses passionné fourni depuis de nombreuses années. Voilà, je pense que ça résume bien les choses. Donc, je vais vous laisser dire peut-être un petit mot de la fin. Théo.
Un petit mot de la fin. j'ai très hâte que le financement arrive au bout et que les gens puissent prendre les chroniques de Valran, le découvrir, faire leurs aventures dedans et que peut-être au détour d'une convention, on vienne me les raconter. Je serais vraiment très curieux de voir ce que d'autres chroniqueurs pourraient écrire. Et j'espère que tout ça vous plaira. Je mets tout ce que je peux pour que ce soit le cas.
Très bien, Florent.
Ouais, super, Théo. C'est une bonne réaction parce que finalement, quand on édite un jeu et que, enfin, quand on fait un jeu, quand on l'édite, c'est ça qui est super, c'est la prise en main du jeu, les gens qui, bon, il y a les dédicaces, mais il y a les gens qui viennent vous dire que c'était super intéressant et qui donnent des idées, qui vous donnent des idées. Et finalement, ça fait germer des idées chez les gens et ça, c'est vraiment très gratifiant dans la création d'un projet. Voilà. En tout cas, bon jeu et bonne souscription et puis donc à bientôt.
Je pense que
faites vos jeux.
Je pense que maintenant tout est dit de notre côté sur l'STV. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Bien sûr, je n'ai jamais le planning sous la main quand il le faut, c'est super. Mais je pense que nous avons du Foundry. On a aussi du Alien qui arrive, les cafés rôlistes comme vous avez l'habitude. Et aussi un épisode de Discussion et Dragons qui arrivera en podcast dès vendredi, comme vous avez l'habitude, de show du matin. Donc, messieurs, merci de m'avoir d'avoir participé avec moi pendant cette petite heure. Et je vais remercier le chat également pour toutes ces questions. Et je vais doucement finir le live si j'arrive à trouver le bon bouton. Et voilà qui est fait. À une prochaine fois.
À une prochaine.
Au revoir.